Lassène, notre coproducteur, nous a rejoint. Bonjour Paul.
Bonjour à tous, j'en profite pour saluer notre confrère, notre ami Charles Magnin, que vous retrouverez dès lundi entre 4h30 et 6h, qui nous écoute ce matin.
Et qui doit être à Nice, je suppose, en ce moment.
Peut-être.
Peut-être.
On lui demandera.
Ou dans un coin que la morale réprouve, mais ça le regarde.
C'est pas son genre.
Oh, tu parles. Dans le journal du off, on a quand même... Enfin, comme si on avait oublié la guerre en Ukraine, ça aussi. Tu sais, maintenant, ça s'est installé, la guerre en Ukraine, ça fait 6 mois. On a un nouveau coup de fil qui a eu lieu entre le président de la République, Emmanuel Macron, et le président Zelensky, durant 1h20. Et le chef de l'État a appelé les Russes à quitter la centrale, les forces russes à quitter la centrale de Zaporijjia. C'est vrai que cette centrale nucléaire, là, c'est la zone de préoccupation mondiale. On dit, qu'est-ce qui peut se passer? Mais ce qui est terrible, en fait, pourquoi je parle de ce coup de fil, c'est que finalement, aujourd'hui, on s'est habitué à ce que ce coup de fil, à ce que ce conflit se soit installé aujourd'hui en Europe, et que les Russes, et l'autre jour Vladimir Poutine a dit non, mais vous inquiétez pas, de toute façon, moi mon calendrier, je l'ai, ça me prendra le temps que ça me prendra, mais j'irai au bout. On aura le Donbass, on aura Odessa, on aura toute cette zone, et puis on récupérera ce que l'on veut récupérer, malgré les milliards, malgré la livraison d'armes. Si tu veux, aujourd'hui, bah, ça continue de se battre en Ukraine. Et nous, on regarde avec des coups de fil, avec une diplomatie qui semble au point mort, quoi, Didier Giraud.
Non, la guerre là-bas, elle dure depuis 2014. Hein. Mm-hmm. Alors, ça n'a pas toujours été les Russes les agresseurs, d'ailleurs, mais la guerre, elle dure depuis 2014, mm-hmm. là-bas. Et elle était, jusqu'à ce printemps, dans l'indifférence générale, quoi. Enfin, voilà, ça redevient loin de chez nous, quoi.
Mm. Kauter.
Pareil, je veux dire, c'est une guerre parmi tant d'autres dans le monde. Il n'y a pas que la guerre en Ukraine, il y a plein de guerres partout,
mais c'est parce
malheureusement.
Que celle-là, d'un coup, elle s'était rapprochée.
Elle a des conséquences sur nos vies.
On a vu la crise des carburants, on a vu la crise du blé, on a vu la crise du gaz, on a vu les prises de position vis-à-vis de la Russie. Ce que ça impliquait pour nous, quoi.
Je suis d'accord, mais ça implique aussi, en fait, je sais pas, moi, je veux pas être, faire la lourdingue, mais tu vois, quand il y a la guerre en Syrie, qu'il y a des flux migratoires, ça a aussi des conséquences chez nous sur plein de choses. Donc, je veux dire. Et après, moi, j'ai découvert que, ben, on dépendait pas de la Chine et qu'on dépendait de l'Ukraine sur plein de choses. En fait, parce que, mondialement, on croit tous que l'usine du monde, c'est quand même la Chine. Donc, moi, je dis pas qu'on doit s'en foutre ou quoi. Toutes les guerres sont à regarder avec. Il faut soutenir la paix, en gros, que ce soit en Ukraine ou ailleurs. Mais si tu veux, ce qui me gêne avec la guerre en Ukraine, vraiment, c'est que je l'ai vécu, je l'avais dit ici, c'est comme si c'était de la télé-réalité. En fait, les négociations entre les chefs d'État pour négocier la paix, ça nous regarde après, quoi.
J'ai téléphoné.
Ça nous regarde pas.
C'est la banalisation du coup de fil.
C'est ça, en fait. Tu vois?
On est tombé sur la banalisation du coup de fil.
C'est ça, tu fais ton boulot.
On n'a pas besoin de le savoir.
La banalisation du coup de fil au président Zelensky. Tiens, le président Macron a téléphoné à Volodymyr Zelensky pendant 1h20. Ah oui, d'accord. Bon, et à part ça, comment ça va?
Moi, ce qui m'intéresse, c'est la paix. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le jour où on va nous dire, ça y est, il y a une solution de paix qui est sur la table, on va signer un traité. C'est ça qui m'intéresse.
C'est une info qui ne nous intéresse pas. Parce que c'est une info qui ne change pas notre quotidien. Et dire qu'il a appelé Zelensky pour nous dire que la guerre suit son cours.
Et demander aux Russes de quitter la centrale.
C'est pas une info qui nous intéresse. Quoi, voilà.
Oui, c'est ça. C'est qu'on aimerait bien, en fait, que les coups de fil aboutissent à quelque chose. On aimerait bien, en fait, que les mesures diplomatiques aboutissent à quelque chose. Aujourd'hui, on est tous un peu essoufflés, en fait, de toutes ces informations qui, au final, ne sont pas suivies de bonnes conséquences, puisque nous, ce qu'on aimerait, c'est effectivement que ça s'arrête et qu'il y ait la paix. Maintenant, il ne faut pas qu'on oublie ce conflit. Pourquoi ? Parce que tout au quotidien, on en souffre. Et on se rend pas compte. On se rend pas compte quand on va voir aussi des pays, tous ces pays qui sont dépendants du blé ukrainien, etc. Donc effectivement, ça c'est un peu débloqué peut-être, mais c'est pas encore sûr.
Il y a un bateau de parti. Hein.
Voilà, donc il y a eu un bateau entre ça et le carburant. Il faut pas qu'on oublie. Mmh. Et évidemment, au-delà de ça, parce que ça c'est juste des petites, j'ai envie de dire des petites conséquences pour nous, mais il faut pas qu'on oublie qu'il y a des morts les jours. Et ça c'est pas normal.
Nous sommes avec Paul Lassène, c'est donc à cette heure-ci l'heure du quiz des GG.
En direct du plateau 208 d'RMC, les GG vous présentent le quiz des grandes gueules.
Monsieur Paul.
Bonjour à tous. Bonjour. Alors pour les téléspectateurs d'RMC Story, vous le voyez, j'ai une petite boîte blanche dans la main. Pour les auditeurs d'RMC, je vais expliquer à quoi elle va servir à partir de lundi. Les GG sont très indisciplinés. Avec leur téléphone portable. Donc à partir de lundi, cette boîte sera à côté d'Alain et vous devrez mettre tous vos téléphones dedans. On attend l'homologation de l'huissier de justice, Maître Crassos, l'huissier de justice
ah oui,
d'RMC.
Maître Crassos, toujours.
Voilà, qui doit homologuer cette boîte. Comme vous pouvez le voir, on a du
budget. C'est comme dans la Maison Blanche.
Voilà. Allez, on y va pour les questions, voilà. Le quiz des GG.
Et pour commencer, j'aimerais qu'on félicite la France et qu'on rende hommage à ce beau pays. Oui, car ces derniers jours, on a appris que la France avait battu deux records. Et on va commencer par le premier. De quel produit la France est-elle le premier consommateur mondial ?
Le vin.
Hachiche.
Le vin.
Plus de précision, Kauter, s'il te plaît.
Le vin rosé. Pardon.
Alors,
tout va très bien. C'est pareil, si tout tu veux très bien, consommateur de rosé.
J'en bois pas, moi, c'est Burke.
Vous en aurez tous après l'émission. Et oui.
Non, Burke.
On est les plus grands producteurs et les plus grands consommateurs.
Pardon, absolument. Je vous laisse ma part. Voilà, je suis gentille.
On est en Corse.
N'a pas goûté des bons rosés.
Mais je bois que du rouge. Mais j'ai bu du très bon rouge.
Et pas raison. De blanc non plus.
Très peu.
Ah bon.
Bah, super vacances. Écoute. Un des meilleurs vins que j'ai bu ces dernières années. Et je, avec modération, avec plaisir.
Non, même pas.
Un vin corse. Il s'appelle le Fumicicole.
Ah ben bah oui. Bah oui, mais j'en ai bu. J'en ai bu du rouge.
En rouge. Alors, la cuvée Alain, sublime.
Il faut rester humble par rapport au vin parce que le vin, c'est la rencontre entre le raisin, le savoir-faire d'un vigneron et le palais de celui qui.
Et une bonne viande.
Et surtout le palais de celui qui boit. Et les palais ne sont pas égaux.
C'est vrai.
Et c'est ça qui est formidable dans le vin, c'est qu'il y en a pour tous les goûts.
Mais moi, j'ai appris qu'on était les premiers consommateurs, les premiers producteurs, et qu'on importait.
De rosé,
et qu'on importait que la vinasse, en fait, à 2 euros le litre. Et c'était que ça qu'on importait. Enfin, en fait. On était les plus grands exportateurs au niveau mondial.
On a longtemps été les leaders européens et mondiaux de production de vin, on s'est fait un peu doubler par les Italiens et les Espagnols.
Et pour info, c'est la première fois qu'on consomme plus de rosé que de rouge depuis le mois de mai. Le rosé est en tête. C'est peut-être aussi dû aux fortes chaleurs.
Forza.
Mais c'est pas le seul record qu'on a battu en France cet été, et celui-là, il va nous rendre fiers. Je vous emmène à Rieutort de Randon. C'est en Lozère, mais pourquoi cette ville est-elle rentrée au Guinness Book ce week-end?
C'était une tablée très longue.
Non, c'est le crachat de noyaux de cerise, le lancer d'espadrilles, le tour du canard.
C'est le plus grand nombre de participants à la danse des canards. Vous allez voir des images sur RMC Story et entendre un peu de son.
Ah mais non.
Ah, c'est des tueurs.
Ils étaient 1000 personnes enregistrées.
Ah, mais c'est pas possible.
C'est génial.
Et le dernier.
Ah, non, mais attendez. C'est sympa comme
attendez,
tout.
Notez l'exploit. Ils sont 1000. Le précédent record était à 572. C'était une ville bretonne. Et pourtant, il y a eu du suspense, puisque figurez-vous qu'à 15 minutes du show, il manquait 100 personnes. Ils sont arrivés très vite. Du coup, le record est battu et ils attendent l'homologation du Guinness pour pouvoir rentrer dedans.
Est-ce que ça vous rend fier? Complètement débile.
Ah, mais c'est
mais dans ce genre de petite commune, ça fait quand même l'occasion de faire une animation qui fait que les gens se rencontrent, qui fait que derrière ça, il y avait peut-être bien un petit marché de producteurs.
Une ville débile, tu peux nous organiser ça dans ton blague, toi.
Le fait de dire on va créer un événement où on fait valider au Guinness des records le fait d'être le vainqueur de la danse des canards.
Mais
moi, j'ai participé entre deux communes du Pays Basque le jour où ils ont fait le plus long paquito. Ils ont relié deux communes distantes de 7 km. J'ai participé à ça. Et
les gens sont portés dans un paquito.
Non, j'étais assis à portée. Mais du coup, tu crées un événement avec rien et tu fais vivre ton territoire. Voilà.
C'est totalement inutile, mais ça fait vivre un territoire.
C'est ça.
Ça laisse une place. Et c'est sympa, c'est rigolo. C'est inutilement sympathique.
Est-ce qu'on peut parler du taux d'alcoolémie des participants aussi?
Vas-y. Ce mépris. Quelle parisienne.
C'est vraiment. C'est eux qui ont battu le record de rosé.
Non, mais c'est pas. Oui, c'est ça.
Il n'y a pas eu danse des canards à ton mariage.
Vous êtes des gros débiles.
Ça va vous amuser. Vas-y.
Non, ça n'est qu'à venir.
Non, en fait, c'est un prétexte pour faire de l'animation locale et du.
On continue. Voilà. Je vous emmène aux États-Unis cette fois, parce qu'on aurait pu croire que sa dernière expérience entrepreneuriale l'aurait calmé, mais non, puisque cette nuit, Elon Musk, le patron de Tesla, multimilliardaire,
il rachète.
Alors, il a annoncé qu'il allait acheter une grosse firme, on peut appeler ça comme ça. Mais saurez-vous deviner? Laquelle?
Manchester United.
Voilà. Il a tweeté qu'il allait acheter le club de foot de Manchester. Alors évidemment, comme à chaque fois qu'il annonce ce genre de choses sur Twitter, flopé de réactions. Sauf que dans la foulée, il a bien sûr annoncé que c'était une blague, qu'il n'achèterait jamais d'équipe de sport, sauf que l'action du club de Manchester United, qui est cotée à la bourse de New York, a perdu plus de 2% juste après.
Il a démenti.
Non. Ah bon. Quand il a annoncé le rachat.
Ah bon.
Les investisseurs n'ont plus visiblement confiance en Elon Musk.
Ah.
A raison, à tort.
Ça envoie un signe pas très positif, ça.
Le Musk, parce qu'il veut voir le buzz que ça crée, quoi, en fait, je pense.
Il s'amuse avec sa fortune.
Il s'amuse. Ça devient un buzz mondial.
Moi, j'avais pas le démenti, moi, ce matin.
Combien d'interactions ça a dû faire. Tu vois, il joue. Demain, il va dire, tiens, j'achète la Lune. Tu vois, il va te dire, j'en sais rien.
Les actions de la Lune.
Et puis il va regarder ce que ça provoque comme buzz, quoi. Il s'amuse.
Il paraît qu'il va t'acheter toi prochainement.
Mais ça, c'est inestimable, le tarif, le gars. On va le mettre à la rue.
Non,
mais t'es pas à vendre.
Tu vois,
Marianne, on a dit, ouais, il est inestimable. On va achetez-moi.
C'est un capitaliste. Allez, on y va.
Allez, on vient en France, les grandes gueules. Qu'a fait Émeric Caron, le nouveau député NUPES, pour faire parler d'un projet de loi qui compte déposer à la rentrée?
Certainement un truc pas très fréquentable.
Je sais pas, il a chanté.
Non, mais il y a de l'idée.
Je cherche. Il a fait une vidéo.
Non, c'est autour de la corrida.
Il est allé voir Francis Cabrel.
Voilà. Ouais. Il introduit son texte de loi avec le morceau de Francis Cabrel, La Corrida, on écoute.
Depuis le temps que je patiente dans cette chambre noire.
C'est Caron qui chante là.
Non, c'est Cabrel.
J'ai failli lui trouver un talon.
Mais non, c'est Cabrel.
Non. La proposition de loi va être
débattue a priori
à la rentrée, prochaine session parlementaire.
Et en dehors des paroles de la chanson, il parle bien sûr de la souffrance des animaux. Ouais.
Voilà. Merci.
Il y a des pays où ils ont arrêté la mise à mort.
Oui.
Mais bon, c'est l'interdiction totale.
Il y a des pays où il y a la peine de mort pour.
On ne veut
commettre un crime aussi.
Du tout de la corrida, du spectacle avec l'animal.
Et je tiens à signaler que Kauter a beaucoup de chance que la boîte ne soit pas encore en place parce que je la vois sur son téléphone à côté de moi.
Et boum.
Je regardais, alors.
C'est interdit.
Mais pas encore. Bungie.
Merci Paul Lasserre.